Alors, vous l'avez compris, à la fête de la science est avant tout ludique, mais attention, le jeu peut aussi être scientifique. Rencontre avec un chercheur en chimie théorique, responsable du projet Foldit.
Alors, moi je suis donc enseignant à l'ENS Lyon, je fais Prague, j'ai fait ma thèse ici, et donc là je commence ma première année en tant que Prague. Donc ça fait la troisième année que je fais cet atelier-là, qui est basé sur l'utilisation d'un petit jeu en fait, qui a été programmé par des scientifiques, donc, qui s'appelle Foldit. Et le principe en fait, c'est de montrer au public que, à l'aide de quelques règles très simples, qui sont à l'interface entre la chimie, la biologie, la physique et l'informatique, d'être capable de leur montrer que les règles qui régissent la construction d'une protéine sont tout à fait à la portée de tout le monde. Et donc vraiment, je leur présente un petit peu ça. Après, chacun donc joue, joue pour trouver la solution, pour être capable de trouver ces règles assez simples. Ensuite, on fait un petit bilan pour voir ensemble ces règles. Et après, je leur montre que vraiment, en théorie, en chimie théorique ou en biologie, ce qui concerne un peu le prix Nobel de cette année, c'est vraiment l'interaction entre l'humain et l'ordinateur qui fait avancer la science, mais que l'ordinateur seul ne pourrait pas arriver à le faire, l'humain seul ne peut pas arriver à le faire non plus, et que c'est vraiment l'interaction entre les deux qui fait progresser les choses. Et encore au-delà, pour ce jeu, c'est un jeu coopératif, c'est pour leur montrer que la dimension coopérative, que quand on est 1000 personnes à travailler sur un problème, on est capable de trouver des solutions qu'un chercheur dans son laboratoire n'est pas capable de trouver tout seul. Et donc, il y a non seulement l'interaction directe donc, entre l'ordinateur et l'humain, mais en plus de ça, une dimension communautaire où plus on est de personnes à travailler sur un problème, plus on est capable de trouver la réponse. Voilà. Alors que vu qu'on n'a pas assez de chercheurs, on utilise les gens normaux pour faire la recherche à notre place. Oui, c'est vraiment qu'un algorithme, c'est bête par nature, puisque c'est programmé par l'humain, et c'est une suite de règles logiques imposées dans un certain ordre pour arriver à une solution. Alors que l'humain, il a cette énorme faculté d'être imprévisible. Et justement, pour ce genre de problème, le côté imprévisible permet de trouver des solutions qui ne sont pas rationnelles et qui pourtant arrivent. On passe par une étape qui est non rationnelle et au final, on arrive à une solution qui est une solution, elle, à ce moment-là rationnelle, mais en passant par un état qui n'est pas rationnel et qui ne suit aucune règle et pour lequel, justement, des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine sont capables de faire abstraction de leurs connaissances, puisqu'ils n'en ont pas, et d'arriver à connaître, à faire des choses qui ne sont pas logiques pour un scientifique ou pour un ordinateur.
Alors après la biologie, qui peut être une science obscure pour le grand public, on est passé à l'exploration de la chimie. Et là, tout le monde connaît un petit peu plus et le public était très impressionné par les bocaux de couleurs, la fumée, tout ça. Et c'est vrai que la chimie, c'est une manière pour nous de nous rapprocher de l'ENS.
Mais la chimie, ça ne se passe pas qu'en laboratoire, Mélissa. Et justement, on avait un stand à la fête de la science de cuisine moléculaire.
Parce que là, vous faites en fait la cuisine, il faut le dire à nos auditeurs quand même.
Oui, là, on fait de la cuisine moléculaire, c'est-à-dire on fait des aliments qui ont le goût connu. Par exemple, je prends du sirop de grenadine et je prends du yop. Et je fais, avec cet aliment, une texture qui est inconnue. Et donc, inconnue en bouche. Et donc, si bien que quand on goûte cette affaire-là, on dit, mais c'est quoi ce truc? Je ne connais pas. Et ah, ça a le goût de la grenadine. Ou ah, ça a le goût du yop. Et donc, c'est amusant parce qu'on peut, d'une part, étonner les gens. Et d'autre part, on peut leur expliquer pourquoi ça se fait avec des formules de chimie très simples ou des images, des métaphores et arriver à de la compréhension du phénomène au niveau microscopique, au niveau des molécules.
Le public était également invité à assister à des démonstrations de chimie faites par les professeurs de l'ENS dans les amphithéâtres d'enseignement, l'occasion pour le public de se sentir comme un élève de l'ENS.
Donc là, tu viens de réaliser une conférence devant un public qui n'est pas spécialiste de sciences. Est-ce que tu peux me décrire le thème de cette conférence?
Alors le thème, on a essayé de coller au thème général de la fête de la science, en allant du microscopique au macroscopique. Donc l'idée, ça a été de présenter aux gens les éléments du tableau périodique et de montrer comment, à partir de ça, on illustre leurs propriétés on prend tout ça ensemble, on fait des molécules, et après on empile les molécules ensemble pour voir ce que ça fait et comment on arrive à l'échelle humaine.
Est-ce que tu trouves que le public a été réceptif ?
Oui, totalement. En tout cas, pendant, ils ont bien participé. On pose régulièrement des questions, on essaie de les faire participer au maximum. Donc ils ont été bien réactifs, ils ont bien posé des questions assez intéressantes d'ailleurs. Et à la fin, ils sont venus nous féliciter, ce qui fait toujours chaud au cœur. On sait qu'on a fait ça pour quelque chose. Et on ne fait pas la présentation académique dans le sens de comment ça a été construit. On en parle très rapidement. Juste, on montre que ça existe, qu'il y a différents éléments que les gens connaissent finalement, même si c'est que des symboles. On essaie de leur faire dire où est-ce qu'ils en rencontrent dans la vie courante. À chaque fois, on se réfère au tableau quand on utilise un nouvel élément en leur disant ben, « il est là, où est-ce que vous pouvez le trouver ?» À chaque fois, ils savent où on peut le trouver, ou en tout cas, quand on leur dit, ils disent « oui, c'est évident, on le trouve ». Donc c'est comme ça qu'on arrive à le faire passer, je pense, au fur et à mesure.
Tout l'enjeu d'une fête de la science ouverte au grand public, et en particulier aux enfants, c'est de vulgariser, c'est-à-dire de rendre visible et compréhensible des expériences parfois très compliquées à ce public qui n'est pas spécialiste. Pour cela, on a recours à beaucoup d'effets visuels, comme va nous l'expliquer la responsable du laboratoire de dynamique.
Donc en gros, on a un atelier sur les tsunamis, donc pour l'océan, on a un atelier sur les flux en rotation pour voir un peu l'atmosphère. Et on a un atelier sur la maïzena parce que principalement parce que ça attire les gens et sinon parce que aussi ça modélise un peu les comportements un peu particuliers de la matière et c'est intéressant quand on fait de la géophysique.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a un Playmobil dans ton atelier ?
C'est un orque, enfin pour les gens qui ne voient pas vu que c'est oui. À la radio, c'est un orque et un bateau Playmobil.
Très joli tous les deux.
Très joli, magnifique. Et du coup pour regarder les tsunamis c'est intéressant parce que ça permet de montrer que une onde solitaire ne transporte pas de matière, elle ne fait que transporter de l'énergie. Il n'y a pas de déplacement net.
D'accord, c'est la vulgarisation par les Playmobil.
C'est super important.
Et ça marche bien ?
Ça marche pas mal, ouais. Donc là, toutes les manips qu'on a montées donc dans le cadre du Labo Junior, l'idée c'est de faire des manips ultra visuelles. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis du colorant bleu pétant, même s'il a commencé à un peu perdre de sa couleur.
On peut dire qu'on a un grand aquarium très très long.
C'est ça.
Bleu fluo avec un petit œuf dedans et un petit bateau Playmobil dessus, c'est assez intriguant.
Donc l'idée c'est juste de faire des trucs qui attirent les gens en fait, pour leur donner envie de regarder ce qui se passe et tout ça. Et si tu regardes, on fait de la géophysique, mais il n'y a aucune équation nulle part.
Alors on le sait, la chimie c'est amusant, mais apparemment la géophysique aussi, vu le nombre de personnes du public qui nous ont parlé de la maïzena.
Pourquoi tu te laves les mains là tout de suite dans une bassine, tu as les mains toutes blanches, qu'est-ce que c'est ?
C'est de la farine avec de l'eau, donc c'est une sorte de produit qui est liquide, sauf que quand on met une grosse pression dessus, ça durcit comme du béton.
D'accord. Et donc tu as manipulé l'expérience là ?
Ouais. Avec j'ai pu le faire moi-même.
C'est amusé ?
Oui, c'était très marrant.
C'est vrai. Qu'est-ce que t'as appris d'autre aujourd'hui ?
Donc j'ai fait le champ électrostatique, c'était marrant. J'ai un copain qui a pris son ADN dans un tube. Et puis sinon il y avait des ordinateurs où on pouvait voir un ADN, le voir de sous les angles. Il y avait aussi la réflexe des jeux de lumière, des jeux de laser qui sont réflectés de partout.
Alors Jeanne, est-ce que tu peux me dire ce que tu as appris aujourd'hui à la fête de la science ?
Alors, ce que j'ai appris...
Ce que tu as aimé ?
Ah ouais, c'est l'espèce de pâte à modeler où il y a...
Avec la maïzena.
Avec de la farine et de l'eau. Et quand on tape dessus très fort, ça fait rien. Et quand on enfonce les doigts doucement, ça t'enfonce les doigts. Et quand tu essayes de l'enlever vite, ça t'enlève, ça fait tout bizarre.
C'est magique.
Ouais.
Alors, la fête de la science nous a permis de nous amuser, de jouer, de découvrir. Mais que pouvons-nous faire quand il reste encore des interrogations en suspens ? Nous avons créé la table des questions.
Alors, Emma, tu as derrière moi un écran sur lequel il y a un compte Twitter. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi il te sert dans ton atelier ?
Alors, en fait, le but de cet atelier, c'est que les gens posent leurs questions et qu'après, on essaye d'y réfléchir ensemble sans leur donner la réponse. Et donc, au final, souvent, ils ressortent de l'atelier sans avoir de réponse à leurs questions. Et le fait de tweeter leurs questions leur permet d'interagir avec des gens qui ne sont pas forcément là aujourd'hui pour l'atelier et qui vont proposer des réponses aux tweets.
Donc, le but, c'est de créer un dialogue et une discussion sur des thèmes scientifiques. Et tu ne comptes pas donner la réponse aux enfants. Il faut qu'ils parlent entre eux, qu'ils en discutent.
Voilà, en fait, on donne pas de réponse, on donne des pistes parfois pour décoincer un petit peu la discussion quand on voit qu'ils ont déjà dit tout ce à quoi ils pensaient. Mais globalement, on part vraiment de ce que les enfants ou aujourd'hui aussi leurs parents vont connaître sur la question et les idées qu'ils vont avoir, les expériences qu'ils vont proposer pour trouver une réponse, etc. Notamment, l'année dernière, il y a eu un exemple d'une classe qui a travaillé, qui a fait un projet de recherche, une classe de primaire autour de fourmis. Et ils ont, via Twitter et d'autres moyens, interagi avec des chercheurs, des biologistes qui travaillaient justement sur ce sujet-là. Et ils leur ont proposé des hypothèses et en réponse, les chercheurs ont proposé leurs propres hypothèses que les élèves ont ensuite pu tester pour les vérifier, etc. Donc il peut y avoir, c'est vraiment un moyen pour deux communautés d'interagir, du grand public et des chercheurs.
Alors cette table question a aussi été l'occasion pour les enfants de poser tous les types de questions, même les plus graves. Par exemple, pourquoi y a-t-il eu des guerres mondiales ? Alors justement, le département d'histoire était également présent à cette fête de la science et a présenté un projet sur la Shoah visant à cartographier les déportations d'enfants en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons pu échanger avec les responsables de ce projet, ce qui va donner lieu à une interview qui sera bientôt diffusée sur le site de Transistor. Restez vigilants.
Et ben moi, je suis une maman dans le petit et venue pour la première fois à l'UNS pour la fête de la science. Vraiment, je félicite tout le personnel et tous les étudiants qui ont été géniaux et qui vraiment vulgarisent de façon très simple, mais très, très scientifique, toute la base de la science dans tous les domaines de la chimie, de la physique et de la biologie. C'était excellent. Excellent, c'était super. Je les félicite. Autant les enseignants que les étudiants, c'était trop super.
Alors vous venez d'entendre ce que ça donne quand le public est heureux de ce qu'il a vu à la fête de la science, mais du point de vue des organisateurs finalement, comment savoir que cette fête a été réussie ?
On est très contents, c'est toujours les profs qu'on voit passer, ils sont ravis, enfin, ça fait vraiment plaisir, et quand on voit les élèves qui ont les yeux qui brillent, on a tout gagné.
Alors je suis avec Jean-François Maréchal, l'organisateur de la fête de la science à l'ENS de Lyon. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie à part la fête de la science ?
Eh bien, je suis maître de conférence en chimie à l'école, donc j'enseigne la chimie. Et puis je m'occupe dans un laboratoire de recherche de la communication scientifique. Donc là, c'est une généralisation de ce qui se passe dans le laboratoire et c'est du grand public et c'est sympa.
Et quelle problématique ça pose exactement la vulgarisation scientifique avec des très jeunes enfants comme c'est le cas ici ?
La problématique est la suivante. Il faut que si un chimiste rentre dans mon atelier, il reconnaisse que c'est encore de la chimie. C'est ça la grande problématique. C'est qu'à partir du moment où il dit « mais c'est pas de la chimie ce que tu racontes », là j'ai raté.
Est-ce que vous trouvez que le public est réceptif, les enfants
Alors le public du samedi est très réceptif. En revanche, le public qui vient en semaine, ce sont des scolaires. Et là, il y a ceux qui sont réceptifs et qui s'amusent, et il y a des espèces de gens qui viennent se poser et puis qui participent pas, et, ou qui viennent, ils font les fous, ils profitent de la journée pour pas aller en classe, et c'est tout. Donc il y a ces deux publics. Le samedi, j'ai que des gens intéressés, que des gens intéressants, qui posent des questions, qui en redemandent.
Et ça vous apporte quelque chose en tant que chercheur ou c'est simplement une expérience plutôt humaine ici ?
C'est pas une expérience, ça fait partie de la philosophie que devrait avoir tout chercheur, que celui qui finance puisse savoir ce qu'il paye. Et celui qui finance, c'est le public. Et donc je lui fais voir. Et en plus, parmi tous ces jeunes qui viennent, il y a les élèves de demain. Donc j'en en motive certains avec ce genre d'événement.
Alors voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Dans les coulisses 2. Nous vous remercions de nous avoir suivis.
Dans les coulisses 2, ça va continuer toute l'année avec de nombreux événements, en particulier une émission spéciale sur les inter-ENS où Transistor va dépêcher une équipe d'envoyés spéciaux. C'était Les coulisses 2 en immersion dans les profondeurs obscures de la science.